franceinter.fr.
Et c'est l'heure de la revue de presse. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Laetitia et bonjour à tous. Et toi, c'est quoi ton petit plaisir ? C'est la question posée ce mois-ci par Néon, qui est allé questionner certains de ses lecteurs. Mon petit plaisir, c'est de danser le rock à fond, répond Célestine, 26 ans. Me foutre à poil dans le quart de l'équipe de rugby, répond Mathieu, son compagnon. Mon petit plaisir, c'est d'enlever les points noirs de mon copain, confie de son côté Manon. Chanter sous la douche pour Edouard, nettoyer mes oreilles avec un coton-tige, explique très sérieusement Emmanuel. Manger du fromage frais, enroulé dans du jambon cru, lance pour sa part Victor. Tandis qu'Élodie, 29 ans, témoigne de son plaisir de jeune maman, c'est enfouir mon nez dans les cheveux de ma fille. Dans le mensuel, réjouissant mensuel, on apprend par ailleurs que le soleil peut rendre accro. Pour certains, c'est même une très dangereuse addiction. On apprend également que faire l'amour peut parfois soigner la migraine. Pas ce soir, j'ai mal à la tête. L'excuse ne tiendrait donc plus. Et puis on apprend la sortie d'un petit bouquin consacré à la façon de parler du chef de l'État, le petit Macron de la langue française. C'est le titre. Une sorte de petit Robert présidentiel qui revient sur les expressions et formules désuètes dont Emmanuel Macron aime saupoudrer ses discours et ses interviews. Lui, c'est ça, son petit plaisir. Bien sûr, il y a la poudre de perlimpinpin, mais aussi le pic-boeuf. C'est une espèce d'oiseau in petto et galimatia ou encore l'injure gros ballot. C'était lors d'un portrait d'un envoyé spécial interrogé sur les critiques de ceux qui lui reprochent d'être en représentation et de faire du théâtre. L'encore candidat expliquait « J'ai envie de leur répondre, ah bah oui, gros ballot. Toi aussi, ta vie, c'est comme ça. » Alors bon, je ne sais pas si l'on retrouvera ces formules. Lors de son discours de demain au château de Versailles, réunion du Congrès, tous les parlementaires, et si l'on en croit le JDD, le président de la République en était hier à la 4e version de son texte.
Le cap et les coupes, c'est le titre du papier.
Discours de Macron ce lundi, discours de politique générale d'Édouard Philippe ce mardi. Et si l'on en croit leurs entourages, ils se sont répartis les rôles, y compris dans l'écriture des discours, pour que chacun s'assure qu'on ne soit pas dans la répétition et puis qu'on n'oublie rien, précise l'Élysée, rédigé par sa plume, Sylvain Faure, aidé pour ce faire par plusieurs conseillers. Le discours d'Emmanuel Macron sera, nous dit-on, peaufiné jusqu'à la dernière minute, un propos d'environ une heure dans lequel il s'attachera à brosser, je cite, « les différents défis auxquels répondra le quinquennat, le sens de son action, la réforme du Parlement, la place de la France dans l'Europe ». Mais il ne devrait pas y avoir d'annonce surprise et il n'a pas l'intention d'entrer dans le détail des réformes. Ça, ce sera le job du Premier ministre et ce sera donc devant les députés mardi un discours qu'on annonce comme une sorte de discours de la méthode très concret, très précis, pragmatique, discours dans lequel Édouard Philippe détaillera les économies budgétaires prévues par le gouvernement. Il a semble-t-il été arbitré qu'il n'y aurait aucun nouveau recours à l'impôt. Pour rester dans les clous européens cette année, il faudra donc couper dans les dépenses. Au Premier ministre, les coupes et au chef de l'État, le cap. Mais tous les parlementaires ne seront pas là pour l'écouter. Les nouveaux députés de la France insoumise ont ainsi décidé de sécher le congrès de Versailles. Explication de leur leader Jean-Luc Mélenchon. Le choix du président n'est pas républicain, dit-il. Il opère un coup de force institutionnel en s'exprimant sans débat. Et sans vote, la veille du discours de politique générale du Premier ministre, il vient, il dicte sa ligne, il s'en va. Et il franchit un seuil, dit-il, celui de l'hyper-présidentialisation sur le mode pharaonique de sa parade au Louvre le soir de sa victoire. Notre seul moyen de protestation, poursuit-il, c'est de briser la chaîne du consentement. Et Mélenchon d'appeler un rassemblement demain soir, place de la République. Macron aime les symboles. Moi aussi, confie-t-il, c'est même l'un de ses petits plaisirs, les symboles. Mais on ne peut pas se rendre place de la Bastille, dit-il, car elle est en travaux. Dans le journal, on apprend par ailleurs que Jean-Luc Mélenchon pourrait devenir également patron de presse. Il s'intéresserait au journal La Marseillaise. Ça également, ce serait un petit plaisir, dit-il, signer tous les matins un édito dans un journal. Dans l'hebdo, vous pourrez lire enfin quelques mots sur l'enquête, même deux pages, sur l'enquête consacrée à la soirée organisée par Emmanuel Macron à Las Vegas en 2016. Des emails révèlent que Muriel Pénicaud, actuelle ministre du Travail et organisatrice de l'événement, avait été mise au courant des problèmes financiers que posait la soirée avant même que celle-ci ne se soit déroulée.
L'hyperprésidentialisation d'Emmanuel Macron, c'est aussi ce que pointe le Parisien dimanche aujourd'hui.
Avec le portrait officiel du chef de l'État à la une du journal. Et le titre, c'est donc l'hyperprésident. Emmanuel Macron décide de tout, monopolise la parole, contrôle sa communication. Certains disent même qu'il la verrouille. Décryptage d'une méthode déjà très contestée, notamment par les journalistes chargés de lui suivre. On le retrouve d'ailleurs également en une du Télégramme, car Emmanuel Macron a inauguré hier la ligne à grande vitesse entre Paris et la Bretagne. Du reste, même les TER vont être plus rapides grâce à la ligne TGV, nous explique Presse Océan, évoquant notamment des liaisons entre Nantes, Angers, Laval et Rennes. Et puis, photo de Benoît Hamon, en une de La Provence. Il quitte lui aussi le PS pour lancer un nouveau mouvement. Hamon donne le coup de grâce au Parti Socialiste. Estime le Parisien, oui, le PS est entré dans une lente décomposition et il va vers la mort, explique le politologue Gérard Grimbert.
Et puis vous avez deux conseils de lecture, Frédéric.
Eh bien la lecture de deux interviews dans le JDD, celle de Christiane Taubira et celle de Régis Debray, qui tous les deux témoignent de leur amour pour la lecture. Régulièrement, l'ancienne ministre de la Justice affirme ainsi que les livres l'ont sauvé. Oui, mais sauvé de quoi, lui demande l'hebdomadaire. Sauvé de l'aliénation et du ressentiment, rétorque Christiane Taubira. J'aurais pu être une boule de haine en découvrant toute seule, sans y être préparée, l'histoire de l'esclavage. La littérature m'a aidé à m'accepter tel que je suis, et puis elle m'a permis de pénétrer d'autres imaginaires, et sans elle, c'est-à-dire grâce à Gide, grâce à Zola, à Victor Hugo, je n'aurais pas été aussi attentive aux autres. À l'école, dit-elle encore, la pire menace des bonnes sœurs, c'était de me priver de livres. Même passons chez Régis Debray, qui a même expliqué qu'il avait abandonné le jury du prix Goncourt parce qu'il voulait du temps pour relire les classiques, voire pour certains les lire, précise-t-il, en citant Cervantes, Dante et Balzac. Pourquoi lisez-vous, questionne le journal. Et le philosophe distingue plusieurs saisons. À l'adolescence, on lit pour se dépayser, trouver des modèles d'identification. Puis il y a la lecture de l'intellectuel, l'idée de trouver les bonnes clés pour comprendre le monde. Mais aujourd'hui, confie ensuite Régis Debray, je lis surtout pour le plaisir. Un plaisir solitaire, un plaisir dans le silence, dit-il. De fait, le bruit, c'est très gênant. Et comme le résume le dicton, là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir.
Merci Frédéric Pommier. Et puis nous, on donnera encore une fois notre conseil de lecture américain avec Laurent Godet. C'était la revue de presse de Frédéric Pommier.